On est de retour aux amateurs de sport et c'est un plaisir pour nous de le recevoir en studio parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Lui qui est vice-président de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey, qui a été tout récemment intronisé au Panthéon de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et qui évolue maintenant comme attaquant dans sa Ligue de garage du jeudi soir à Brossard. Stéphane Quintal qui est avec nous. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Margot, ça va bien?
Ça va très très bien. Quoi que j'entends parler d'un retour à la ligne bleue là, dans ton cas. Là.
Oui, souvent.
Les rumeurs
sont
bonnes?
S'il manque trop d'avant, je vais jouer à l'avant, mais je préfère... de jouer à la défense.
T'as encore du fun à jouer au hockey?
J'adore.
Si on commence par ça. Parce que le hockey, c'est ta vie, tu sais.
Oui, je joue deux, trois fois par semaine. J'ai joué aussi deux, trois matchs avec les anciens Canadiens là, pour voir comment ça allait eux. Non, puis j'ai vraiment trouvé une bonne ligue. On joue le mercredi matin. C'est une ligue de pompiers, policiers à Brossard. Puis c'est vraiment du bon calibre. Puis les gars sont super gentils. Fait que c'est vraiment le fun.
Quand un ancien joue dans une ligue de garage, entends-tu des histoires de gars qui se font essayer des fois ou dans des matchs?
Non, ben moi, c'est ma ligue le jeudi, c'est moi qui l'ai fondée, fait que j'ai choisi... c'est tous mes amis d'enfance qui sont là, fait qu'il n'y a aucun problème. Puis le mercredi matin, mais on est beaucoup d'anciens là-bas, fait que c'est pas... Il y a pas de...
T'es préfet de discipline de ta ligue de garage,
ça. Fait que
pas juste la Ligue nationale de hockey. T'as tellement d'occupations à la Ligue nationale de hockey, mais l'une d'entre elles, Stéphane, on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu avant d'entrer en onde, c'est que tu sièges sur beaucoup de comités, mais un qui s'occupe notamment des anciens. On vient de parler d'anciens, il y a des ligues d'anciens, parce que il y a beaucoup de soucis, puis est-ce qu'on pourrait parler d'un grand sentiment d'empathie de la part des joueurs actuels, des dirigeants actuels pour les anciens qui n'ont pas vécu des mêmes paramètres économiques que ceux d'aujourd'hui?
Bien, souvent, il y a souvent des directeurs généraux présentement qui sont des anciens joueurs. Il y en a beaucoup. Depuis deux, trois meetings qu'on a avec les directeurs généraux, là, le sujet des anciens est sur l'agenda. Fait que moi, ça fait juste un an et demi que mon boss Bill Daly m'a mis c'est un comité-là, puis on se rencontre avec Glenn Healy, qui est le président des anciens, qui est à Toronto, puis on parle des besoins, puis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, puis comment on peut les aider. Comme je te disais, ceux qui habitent aux États-Unis, qui n'ont pas une assurance maladie comme on a aussi au Québec, c'est plus difficile parce que ça coûte très, très cher. Et fait qu'on essayait de trouver des façons pour qu'ils aient accès à des soins ou que ça soit un petit peu moins coûtant pour eux.
Oui, des tests des médicaux, notamment lors des tournois de golf.
Ben ça, ça a été parlé dernièrement, puis je trouve que c'était vraiment une bonne idée. C'est que les Rangers de New York puis Tampa, c'est quand ils amènent leurs anciens pour leur tournoi de golf annuel en début de saison, mais juste un peu avant que les joueurs actuels font leurs médicaux, les anciens le font aussi, fait qu'ils offrent ça en même temps. Tu viens au tournoi de golf et tu fais un bilan annuel là, à chaque année, fait que je trouve que c'est une bonne idée de leur part.
Une histoire qui a frappé l'imaginaire de tous, puis c'est pas un cas unique, c'est l'histoire de Donald Brashear puis de l'amitié avec Pierre Sévigny, Pierre qui lui a donné une chance de repartir, de venir travailler dans un de ses restaurants, puis les gens, c'est comme ça les a frappés parce que c'est comme si parce que t'as joué au hockey dans la Ligue nationale, tu serais immunisé contre toutes sortes de situations. C'est loin d'être le cas. Toi qui es bien placé pour observer ce qui se passe avec les anciens, est-ce qu'il y a beaucoup de cas qui vous préoccupent, qui vous touchent, puis qui vous donnent envie de vous impliquer comme ancien?
Oui, absolument. Si on peut les aider.
Tu connais Donald personnellement, toi?
Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, mais j'ai lu son histoire comme tout le monde. Là.
C'est touchant?
Oui, c'est touchant, puis j'ai trouvé ça très généreux de la part de Pierre Sévigny, Pierre avec qui j'ai joué, que c'est un gars qui a un grand cœur, puis c'est une bonne personne, fait que j'ai trouvé que c'était vraiment... la grande classe de sa part de faire ça, puis mais tu sais l'autre côté aussi, moi comme je dis c'est nouveau pour moi, mais il y a toujours des besoins, puis je pense que de s'entraider entre anciens c'est super important.
T'es à la Ligue nationale de hockey depuis 2011 déjà, Stéphane, toujours au département de la sécurité. De quoi es-tu le plus fier de la façon dont la game, dont la partie, dont ce qu'on voit sur la glace a évolué depuis ce temps-là? C'est toujours accueilli avec cynisme quand c'est le commissaire qui le dit, parce que bon, les gens surveillent ça de près. Mais vous, de l'intérieur, de quoi êtes-vous fier?
Ben, je pense qu'on est très, très fiers cette année. T'sais, on a juste, jusqu'à maintenant, on a 7 suspensions, puis en moyenne... Il y en a une trentaine là, par année. Fait que jusqu'à maintenant, ça va super bien. Puis je crois vraiment, vraiment que c'est notre travail d'éducation qu'on fait. Depuis 2011, on a un camp d'orientation pour les recrues qui a lieu à Washington à chaque année. C'est Don Fear qui était au baseball, qu'eux faisaient ça dans le Kamel, que chaque équipe envoie 2-3 jeunes joueurs, puis ils font des séances soit sur à chaque année, il y a un ancien qui vient parler s'il y a eu des problèmes avec l'alcool, la drogue, des choses comme ça. On parle aussi de toute l'histoire de la Ligue, essayer de les éduquer par rapport à ça. Toutes des sessions, comment gérer les médias sociaux. Fait qu'ils ont des ateliers, comment gérer ton argent. On a des ateliers. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on montre une séquence. L'année passée, c'était la suspension de Cédric Paquette sur Krug. Puis après ça, ils font leur travail. Fait qu'ils décident premièrement si jamais c'est une suspension. Puis après ça, ils vont faire une vidéo pour expliquer comme nous on fait. Fait que,
S'il était préfet de discipline d'un jour.
Fait que Ray Whitney jouait le rôle de Paquette. Puis on avait un autre de notre équipe qui jouait le rôle de Julien Brisebois, puis tout ça. Fait que après ça, c'est les joueurs qui posent des questions. Puis ils apprennent au moins le processus. Si jamais ils ont à se faire suspendre, c'est pas ça qu'on souhaite, là. Mais ils connaissent le processus. Puis on leur dit vraiment de si jamais ça arrivait, de bien se préparer, amener des comparables, puis de s'assurer que qu'ils expliquent leurs points. T'sais. Parce que dans le fond, quand tu fais l'audience, on donne une chance aux joueurs de s'expliquer comme il faut. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on fait ça, mais je pense que ça, avec les années, ça a porté fruit. Et justement, le fait aussi que, tu sais, depuis 2011, si jamais toi, Mario, t'as une mise en échec, t'étais comme à 2 cm de te faire suspendre pour un coup à la tête, mais je vais t'appeler et te dire, hey, je t'envoie le clip, je te dis, fais attention parce que là, t'étais vraiment. Puis ça, le gars apprécie ça beaucoup. Puis ça, on fait ça depuis 2011, puis je pense que maintenant, ça commence tranquillement. L'année passée, on a. George et Ray Whitney, moi, on a vu les 31 équipes là, de la Ligue nationale. On a passé, moi, j'ai fait une quinzaine d'équipes dans l'Est, puis Ray Whitney dans l'Ouest. Puis on a rencontré, on montre une vidéo puis de notre travail, puis tout ça. Puis on leur dit tout le temps, tu sais, si vous avez des questions, on a tous joué, on est là pour répondre à vos questions. Puis si vous ne comprenez pas des choses, on peut vous envoyer des comparables. Mais tu sais, on a tellement de jeux qui sont depuis 2011, que c'est... Je dirais pas que notre job est plus facile, mais on a accès à beaucoup d'angles de caméra.
La banque d'archives est pleine.
La banque d'archives est pleine, beaucoup d'angles de caméra, fait que c'est... Si jamais, c'est un coup à la tête, mais on peut dire, OK, mais là, c'est ça l'impact. Puis, il y a beaucoup, beaucoup moins, mais en tout cas, je pense qu'il y en a quasiment plus des gestes intentionnels. Tu sais, c'est, mm-hmm. Surtout pour les coups à la tête, c'est un coup d'épaule, c'est juste que le gars a pris une mauvaise position, une mauvaise entrée pour donner sa mise en échec. Là.
Je pense à ça juste de même, parce que c'était un match récent du Canadien. Tu as vu la mise en échec, sûrement de Nate Thompson contre les Canucks contre Vancouver. Là, ouais. C'est bon, il y a eu un 2 minutes, il n'y a pas eu d'autres conséquences, mais c'est-tu le genre de cas où tu vas dire au gars, fais attention?
Non, pas celle-là.
Non, parce que c'était vraiment, vous jugez que c'est vraiment dans le fruit de l'action, le gars se baisse.
C'est ça,
C'est ça. Puis il y en a beaucoup de situations comme ça. Tu sais, je regarde des matchs de football où aussi on sévit contre les coups à la tête, puis tu remarques, je pense, tu regardes du football de temps en temps, c'est difficile d'éviter tout contact casque à casque, là, à un moment donné.
Mais la grosse différence, je te dirais, Mario, c'est qu'en 2011, quand on est arrivé avec le règlement 48 des coups à la tête, c'est que les joueurs n'étaient pas habitués. Et dans les rangs mineurs aussi, dans le hockey mineur et... après ça, dans le junior ou collégial, il n'y avait pas ce règlement-là. Mais là, depuis qu'on l'a en 2011, mais tout le monde qui arrive maintenant, ils ont toujours joué avec ce règlement-là, fait que c'est plus facile. Tu sais, je me rappelle cette année-là, avec Brandon, on avait eu comme 58 suspensions. Je pense qu'il y en avait plus que la moitié qui c'était pour les coups à la tête, parce que les gars n'étaient pas habitués encore. Fait que,
on a réussi à changer les comportements, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit plus. Et quand on le voit, on se crée. Tu sais, quand on voit un gars arriver proche de la bande, puis avant, c'était comme normal, puis c'est qui va rentrer le plus vite, puis c'est une culture qui a complètement... Toi, t'as grandi dans... Aurais-tu aimé ça, jouer dans le hockey d'aujourd'hui, Stéphane, ou en même temps...
Ben, c'est drôle que tu me dises ça, parce que hier on parlait de la façon de structurer tes défenseurs, puis tu sais, mettons, t'as 7 défenseurs dans une équipe, puis moi, je me rappelle quand je jouais, on avait peut-être 4 défenseurs plus défensifs, plus robustes, puis on avait 2 qui étaient, disons, plus habiles, puis pour jouer sur l'avantage numérique, mais maintenant, c'est le contraire, t'en as un, deux comme moi, puis le restant, c'est des gars, t'sais, de 6 pieds 1, 6 pieds 2, 200 livres, qui sont très, très mobiles, qui bougent à rondelles, qui se portent en attaque, puis tout ça. Fait que j'ai été, dans le fond, avec mon style de jeu, j'ai été vraiment privilégié de jouer dans ces années-là, avant 2006. Là.
Ouais, mais tu pourrais te tirer d'affaire comme un Chiarot aujourd'hui, sans aucun doute. Là, lui qui ouais. va très bien, avec ou un Shea Weber, pourquoi ouais, pas. Mais... hein? Un droitier, Stéphane, quand même. On a vu des beaux élans offensifs. Mais ce qui est intéressant, je pense, de votre approche, c'est peut-être pour ça, je sais pas qu'est-ce que ça a eu comme effet, mais les joueurs vous voient comme des partenaires plutôt que comme la police, en quelque sorte.
Oui, puis l'autre chose que j'aimerais discuter, parce que souvent on parle du protocole, puis les gens des fois comprennent pas pourquoi on... Parce que ces gens-là qui vont sortir un joueur du match sont dans notre salle à New York. Fait qu'on travaille avec eux. Puis la grosse différence, parce que sur le comité des commotions cérébrales, on en parle souvent, c'est que les joueurs vont... avant, étaient un peu plus... s'ils se faisaient sortir... Je me rappelle d'un commentaire de Connor McDavid qui avait été... Il était fâché parce qu'il s'est fait sortir, puis... Oui. Dans le fond, t'as 10-12 minutes, faut que tu sortes, puis si la match est 4-3 ou comme Brad Marchand dernièrement, absolument. Mais tu sais, quand avant, il y avait beaucoup de joueurs qui se plaignaient de ça, maintenant t'en as plus. Puis même à ça, il y a des joueurs maintenant que, mettons, t'arrives sur le banc, puis je vois que tu te sens pas bien, mais même les joueurs vont dire à l'assistant entraîneur ou au thérapeute de dire hey, fais attention, je pense qu'il se sent pas bien. Tout ça, puis ça, c'est. On n'avait jamais vu ça avant. Fait que les gars sont pas mal plus conscients des commotions, puis aussi des signes qu'ils peuvent avoir. Fait que ça, je pense que c'est un travail qu'on on s'améliore tout le temps, parce que c'est vraiment un sujet qui est pas facile. Là.
Non, pas facile.
Mais on s'améliore tout le temps là-dedans, puis c'est sûr que des fois, on prend plus de précautions, puis les joueurs, des fois, peuvent être fâchés, mais on fait notre travail aussi.
La dimension qui ressort des cas comme Marchand et McDavid, c'est qu'on comprend que, dans le fond, vous n'êtes pas toujours dans une position facile, parce que vous voulez retirer des gars du jeu qui ne veulent pas se retirer du jeu.
C'est
un peu ça. Puis l'équipe non plus. Imagine, tu es un match de série, là, septième match, peu importe la ronde que tu as, puis là, un de tes joueurs, McDavid, tu le sors du match. Mais on a vu, et tu le sais, là, tu sais, je pense encore à Day-Lewis, tu te souviens, au milieu de la glace à Montréal.
Oui, c'est moi qui étais en charge.
Bon, puis tu sais, il avait poursuivi. Ryan Poehling a vécu un cas cette année aussi où on ne l'a pas sorti, puis après ça, on se rend compte le lendemain. Tu penses que maintenant, on va arriver où que ça va être un automatisme, ça sera plus le 10 minutes, c'est ta soirée finie, parce que c'est comme si... Puis là, écoute, c'est des majeurs vaccinés, là. C'est pas moi qui se fait frapper à la tête, c'est des joueurs. Mais est-ce qu'un jour, on va envisager, tu penses qu'on va sauter une autre étape pour dire, ben quand c'est plus un 12 minutes le protocole, c'est que ta game est finie? Parce qu'il y a des cas comme ça qui
ouais, mais je pense que le protocole va super bien, puis je pense que c'est important d'avoir le médecin qui prend la décision, là. Puis si jamais il y a des doutes, il va aller sur le côté qu'il va prendre plus de précautions que.
Mais c'est des cas rares, des cas comme oui, c'est Poehling, selon toi?
La chose qui est difficile avec les commotions, c'est que souvent, après le match, ils vont être corrects, mais c'est le lendemain matin. C'est souvent la nuit que ça se passe. Fait que, puis même à ça, c'est difficile pour nous aussi quand, mettons, on a un coup à la tête, puis on a l'audience, puis tout ça, puis d'habitude, on va rajouter un match pour la blessure, mais les gens me demandent pourquoi que c'est juste un match, parce qu'on sait jamais avec ça. On sait pas si ça va durer 3-5 jours ou ça va durer un an. T'sais, fait que c'est depuis le début, on fait ça, puis je pense que ça fonctionne assez bien, là.
Stéphane Quintal, qui travaille, bien sûr, à la Ligue nationale depuis 2011, ancien du Canadien, des Bruins. Et j'ai toujours envie de citer dans mon énumération. Je t'en reparle souvent toutes les fois qu'on se voit. Je pense, c'était à Providence que tu jouais, non, dans le temps, là,
non, les Mariners.
Les Mariners du Maine, exactement. Les Mariners du Maine contre Stephen Fletcher et compagnie. Ça c'était une autre époque. On fait une courte pause et on revient dans un instant avec Stéphane. Notre invité aux amateurs de sport, Stéphane Quintal, préfet de discipline. En fait, maintenant, qui travaille avec George Parrott, qui est devenu le préfet de discipline, mais tu travailles toujours au département de la sécurité des joueurs. Tu sièges sur plusieurs comités de la Ligue. Mais pour enchaîner avec ce dont on parlait juste avant la pause, tu as joué du hockey robuste, Stéphane, de toutes les façons, tu t'es impliqué pour tes coéquipiers. Quand tu regardes ça, toi, les commotions, as-tu vécu ça pas mal personnellement? Te souviens-tu où tu as été épargné dans ta vie personnelle de joueur?
J'en ai subi, là.
Ah oui?
Puis avant qu'on implante le protocole en 98, là, c'est sûr que je me rappelle, j'en ai eu deux. Je me rappelle, comme c'était hier, là, Owen Nolan m'avait frappé. Il jouait pour les Nordiques de Québec. Puis je pensais que j'étais parti après. On s'était battu. Puis je me souvenais même, quand j'étais au banc de punition, après le match, je me souvenais quasiment plus de rien. Là, fait que c'est, mais ça, c'est en 92, là. Fait que c'est vraiment en 98 que ça a commencé. Mais avant ça, on ne le savait pas, là.
d'après toi, tu penses-tu que les mises en échec, avez-vous les causes des commotions, c'est-tu des bagarres, oui. Des mises en échec?
Oui, c'est sûr que dans le bagarre, c'est très, 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 très minime. Je ne sais même pas s'il y en a eu l'année passée, là. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup.
C'est vraiment les mises en échec.
Les mises en échec, puis souvent, c'est même pas c'est des mises en échec légales, mais souvent, c'est pour ça que je fais partie d'un autre comité aussi qui regarde tout l'environnement de la patinoire, comme les baies vitrées, les bandes, puis tout ça, parce que souvent, il va avoir une mise en échec sur l'épaule, mais la tête va frapper la baie vitrée, puis c'est là qu'il va y avoir des commotions aussi. Fait que on fait un travail aussi, tu sais, on regarde les casques, on regarde aussi les épaulettes, les coudes, on fait des tests.
Tu viens des bandes en ciment, puis des baies vitrées en ciment, au centre Motion, c'était dur, là. Là, ça bouge au moins, là.
Ben, je pense
ils ont changé.
Ben, quand ils sont passés du forum au centre Molson, le changement s'est fait. Mais moi, je me rappelle au forum, les bandes étaient dans le béton. Là.
Ah oui. Mais ben, au centre Molson, ça a pris du temps aussi. Je sais pas ils ont modifié. Je me souviens pas en quelle année.
Je suis au courant de toutes les bandes présentement dans l'Arène nationale. Mais
Stéphane, j'aimerais ça un rapport détaillé, s'il te plaît.
Je l'ai chez les
bandes de l'Arena de Brassard, puis voir. Ça, je veux dire. Mais es-tu soulagé? Ça t'as-tu inquiété en vieillissant? Tu es dans la jeune cinquantaine, tu viens tout juste de franchir le cap des 50 ans, de dire est-ce qu'il y a des séquelles? Tu vois plein de gars qui ont des séquelles, puis comme tu as joué du hockey très, très physique.
Non, physiquement, je me sens vraiment, vraiment
c'est
bien.
C'est super. Tu dois être soulagé. Ça t'as-tu déjà inquiété en vieillissant?
Ou? Non, mais c'est sûr que quand il y en a plusieurs qui sont suicidés, puis que c'était vraiment. Mais j'ai pas vraiment de.
Tu voyais pas de similitude dans les symptômes, tout ça. Non, ben, tant mieux. Comment tu réagis, Stéphane, comme membre du temple de la renommée du hockey junior majeur québécois, à l'idée que dans le junior, là, on veut trouver. Les décisions ne sont pas prises encore, mais on veut éliminer les bagarres. En fait, je suis pas sûr qu'on va réussir à complètement les éliminer. Il y en aura toujours ici et là, mais un gars qui se battra sera éjecté d'un match avec possibilité de suspension. Penses-tu que le junior est rendu à adopter ce type de règlement-là? Comment tu vois ça?
Ben, comment je vois ça? Si je regarde, nous, la Ligue nationale, je pense que une bagarre par 8 ou 9 matchs maintenant. T'sais.
Non, c'est rare.
C'est très rare. Fait que je comprendrais pas pourquoi qu'on aurait ça dans le junior, surtout avec des gars qui ont 16, 17, 18 ans. T'sais. C'est un risque de blessure inutile. Fait que oui, je suis en faveur de ce règlement-là.
Et dans la Ligue nationale, les propos de Drew Doughty se sont sûrement rendus à tes oreilles, puis ça doit générer des discussions entre les gens du comité de discipline quand lui affirme que dans la Ligue, il y a encore des rats, et puis que les bagarres demeurent quelque chose de nécessaire.
Ben, je pense que si tu...
C'est pas évident de se prononcer là-dessus?
Non, c'est pas évident de se prononcer là-dessus parce que...
Parce que tu représentes la Ligue aussi?
Je représente la Ligue, puis moi, c'est un côté que j'ai pratiqué pendant longtemps. Là, fait que c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question-là. Je te dirais que... Je vais m'assonner de répondre à ces questions-là.
Veux-tu que je t'aide un peu? Je peux te donner des idées, Stéphane. Genre, toi là, quand tu vois un Kotkaniemi se faire projeter à terre sur la glace, là, trouves-tu ça dommage qu'il puisse pas y avoir de punition instantanée à l'agresseur? C'était un joueur, là. On jase, ouais, là.
Comme je te dis, à cause de mon rôle à la Ligue, je vais m'abstenir de répondre à ces questions-là.
OK. Regarde-moi dans les yeux, par exemple. Je veux savoir ce que tu penses.
La misère.
Aïe, 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 aïe. Quelles sont les choses qui t'emballent le plus après toutes ces années à la Ligue nationale dans les nouvelles responsabilités qu'on te confie, Stéphane? Tu sièges sur le comité de compétition, sécurité des joueurs, anciens.
Celui qui m'excite le plus, c'est le comité des commotions cérébrales.
Fait que oui?
C'est vraiment parce que c'est un comité qui est formé avec plusieurs personnes. Matthew Schneider, l'association des joueurs, Rob Zamner, Steve Webb, qui sont avec l'association. Des médecins, des avocats, c'est vraiment des comités, puis on se rencontre 4 fois par année, fait que c'est vraiment des belles discussions, puis j'apprends beaucoup avec ça aussi.
Oui, c'est là que j'avais envie d'aller. Ouais. Ça doit être fascinant d'être en contact avec la science, en quelque sorte, hein, c'était de faire des découvertes.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des découvertes qui t'ont étonné?
Ben, des découvertes qui aident à la sécurité des joueurs présentement, t'sais, fait que c'est, je veux dire, une niaiserie, là, mais moi, je trouvais que souvent, je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais il y a eu souvent des blessures avec les portes de banque qui s'ouvraient.
Ben oui, c'est vrai.
Fait que moi, j'avais fait une proposition il y a une couple d'années. J'ai dit, parce qu'il y avait des arénas dans lesquelles il n'y avait pas de spring tu sais, j'ai la misère à expliquer ça à la radio, mais le genre de clapet qui fait que ça se ferme automatiquement, tu sais. Fait que,
oui.
Parce que souvent, si tu fais juste fermer la porte, mais ça c'est facile.
Un gars se fait plaquer le long de la banque, puis il arrive dans l'ouverture, la porte s'ouvre.
C'est comme un genre de clapet de sécurité.
Elle se referme tout seul maintenant?
Ben, dans toutes les arénas maintenant, il y a ça. Fait que ça, c'était comme un peu mon idée de faire ça. Fait que sur le comité de l'environnement de la patinoire, tu sais, on regarde les sorties de sécurité pour les ambulances, le médecin où il va être, les trainers sont où, puis il y a combien d'ambulances au match. Fait que toutes ces choses-là, c'est un comité que j'aime beaucoup faire. Fait que, tu sais, j'apprends pas juste sur... c'est sûr que mon devoir, mon travail est de tous les soirs regarder des matchs puis m'assurer que tout est fait ce côté-là sur la patinoire, mais je suis en train de bâtir aussi beaucoup de connaissances par rapport au restant du hockey. Là.
Est-ce qu'il te reste des choses... Non, je reprends ma question. Il te reste sans doute énormément de choses encore à vivre dans le monde du hockey. Est-ce que tu as encore des souhaits, des rêves maintenant? Puis ça doit être difficile de répondre à ça parce que j'imagine que tu as coché check à pas mal des ambitions que tu avais. Puis c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus après tout ce que tu as fait?
Tu as raison, mais... j'ai dit souvent, là, puis souvent, je sais pas pourquoi les gens me demandent « Tu travailles-tu encore à la Ligue nationale? » Je dis « Oui, je travaille encore là. » C'est la raison pour laquelle j'ai pris un pas de recul, c'est que quand ils m'ont demandé de faire ça pour 3 ans, que là, c'est George, c'est sa troisième année, ça fait que là, 2 ans et demi, 3 ans, c'est fallait que je déménage à plein temps à New York. Puis moi, j'étais pas prêt parce que mes enfants sont ados. Maintenant, ma fille elle a 16 ans, j'ai un garçon de 14 ans, puis j'ai une petite fille de 17 mois.
Félicitations pour la dernière.
Merci. Fait que pour moi, c'était pas envisageable de déménager à plein temps. Puis là, je le faisais une semaine. M. Bettman avait décidé que oui au début, dans mes 3 premières années, mais après ça, si je continuais, il fallait que je déménage à plein temps à New York. Puis moi, j'étais pas prêt à sacrifier ma famille pour ça. Là, de plus en plus, j'ai de plus en plus de responsabilités à la Ligue. J'aime beaucoup travailler avec Bill Daly. Je ne sais pas où ça va m'amener. Peut-être que dans une couple d'années, peut-être je déménagerai à plein temps à New York quand mes enfants vont être plus vieux puis que je vais avoir plus de responsabilités. Mais pour vraiment que je perde la Ligue présentement puis que j'aille dans une équipe, il faut vraiment que ce soit un poste décisionnel important. Parce que je touche à trop de choses, puis dans le fond, je suis en train de faire un bon résumé, puis j'aime vraiment ça, qu'est-ce que je fais là.
Tu côtoies des gens qu'on connaît peu.
Pas un résumé, un bon CV.
C'est
en anglais, c'est un anglicisme.
Mais c'est sûr que tu as tout un CV, effectivement. Puis en plus, ben le fait d'avoir joué, ça doit être précieux dans l'organigramme de la Ligue nationale. Des gars comme Bill Daly et Gary Bettman n'ont pas joué, je pense. Ils aiment s'entourer de gens qui ont joué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux hommes, Gary Bettman et Bill Daly, qui dirigent le hockey professionnel en Amérique du Nord?
Moi, j'ai été en contact avec lui quand j'étais décisionnel. Là, disons qu'il m'appelait pas souvent. Souvent, on avait des bonnes discussions, puis on se voyait un peu plus souvent. Mais présentement, je travaille beaucoup plus avec Bill Daly. Puis c'est un gars incroyable, un gars qui travaille tout le temps. C'est un bon sens de répartie, c'est un gars qui est intelligent, c'est un gars qui est sensé, puis c'est un gars qui est très ouvert d'esprit. Je suis vraiment, vraiment chanceux de pouvoir avoir accès avoir lui comme patron, là.
Ouais. Quelle est leur équipe préférée, eux autres?
Je peux pas dire.
Non. Non. Ils t'ont pas dévoilé ça. Ils ont pas un tatou.
Non.
Toi, on peut penser que t'en as encore une. Non, tu peux-tu? Pas une autre question, tu peux pas me répondre, Stéphane. Écoute. Voyons donc.
J'aime toutes les équipes nationales.
Tu les aimes vraiment toutes sur un pied d'égalité.
Ouais.
On est content que la Ligue, quand même, embauche des gens neutres.
Ouais,
peu importe
ça.
Où ils ont.
Et des Québécois.
Et des Québécois. En plus, est-ce qu'il y a d'autres Québécois qui travaillent à la Ligue nationale qu'on ne connaît pas ou dans les bureaux?
Il y a Steve Assepetros qui s'occupe du calendrier, qui fait un job exceptionnel. Là, ça fait longtemps, je pense que ça fait 25 ans que Steve est là, qui travaille à la Ligue. Là. Puis il y a un comptable aussi qui habite à Boucherville, Joseph de Souza, qui travaille à la Ligue depuis 25 ans aussi. Là.
Ouais. Temps des fêtes s'en vient, vas-tu le passer au Québec avec
ouais,
avec,
non,
en
je,
famille?
Oui, non, dans le canton de l'Est pour temps des fêtes. Ouais.
Ah, ben écoute, je pense que j'ai une petite idée de l'endroit où tu vas te retrouver. Au plaisir de se croiser, Stéphane.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de cet entretien.
Merci de m'avoir invité.
C'est toujours apprécié. Merci et bonne année 2020 à toi et tes proches.
OK, merci.
Ciao. Il fallait que je bafouille en plus en disant ça.